Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, ce 12 novembre, nous fêtons, nous devrions fêter en soi la Toussaint dominicaine, la fête de tous les saints dominicains, même si de fait, cette fête de deuxième classe est empêchée par le dimanche, mais une simple mémoire. Aujourd'hui, nous pouvons regarder toute cette foule de saints dominicains, de saints de l'ordre des frères prêcheurs. Chacune des familles religieuses, des grandes familles religieuses, des grands ordres, ont chacun leur Toussaint, en fait plus particulièrement, dans leur propre saint. Et chacune des familles religieuses peut être comparée à une espèce de fleur dans le jardin de la très sainte Église. Vous savez que pour qu'un jardin soit beau, pour qu'un jardin soit agréable, il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule espèce de fleur, quelque belle qu'elle soit. Si dans un grand jardin, il n'y avait par exemple que des lys, les lys sont très beaux, ils sont magnifiques, ils ont une très belle et très bonne odeur, mais s'il n'y avait que des lys partout, pas un seul arbre, pas un seul brin d'herbe, ce jardin ne serait pas beau, en fait. On s'y ennuierait très rapidement, on passerait à autre chose. Pour qu'un jardin soit beau, il faut qu'il y ait de nombreuses espèces différentes de fleurs qui s'entremêlent partout, avec une belle harmonie. Et le jardin de l'Église ressemble un peu à ce jardin, ces beaux jardins. Il y a des familles religieuses différentes qui, chacune d'entre elles, pratiquent d'une manière toute particulière une certaine vertu, qui imite notre Seigneur Jésus-Christ par certains traits. Parce qu'en effet, notre Seigneur Jésus-Christ est si grand, si parfait qu'aucun saint par lui-même et seul ne pourrait vraiment comme le reproduire d'une manière vraiment exacte. Pour réussir à reproduire le Verbe incarné de notre Seigneur Jésus-Christ, pour essayer de l'imiter un petit peu, de l'approcher, il faut multiplier d'une certaine manière les saints et les familles de saints que sont les familles religieuses. L'ordre des frères prêcheurs, l'ordre dominicain compte pas moins de 15 saints canonisés et plus de 80 bienheureux. L'ordre des frères prêcheurs peut être résumé, son idéal peut être résumé par ce mot d'ordre veritas, vérité, et sa vertu particulière, ce par quoi elle s'approche plus particulièrement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce zèle brûlant pour la prédication, pour le salut des âmes. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, tout au long de sa vie publique, on le voit prêcher, utiliser toutes les occasions pour prêcher. On voit régulièrement notre Seigneur qui prend occasion d'une chose extérieure, par exemple de la vigne. Il passe avec ses apôtres à côté d'une belle vigne, et alors il prend une parabole, le royaume des cieux, où l'âme est comparée à une vigne qui doit être attachée à notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi de suite. Notre Seigneur profite de toutes les occasions qu'il a pour prêcher aux âmes, pour les sauver. Et c'est par là que l'ordre des frères prêcheurs essaie d'imiter notre Seigneur. Comme d'ailleurs Dieu lui-même le dit de Saint Dominique, le fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, Dieu le Père le dit à Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne a vu un jour une vision où elle voyait le Père, Dieu le Père, et de son sein sortir le Verbe éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Puis ensuite, elle a vu de même sortir du sein de Dieu, Saint Dominique. Et alors, Sainte Catherine de Sienne était très étonnée que même un grand saint comme Saint Dominique puisse être ainsi assimilé à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors, Dieu le Père lui explique, Sainte Catherine. « Mon Fils par nature, Verbe éternel de ma bouche, a publiquement annoncé au monde les enseignements dont je l'avais chargé. Il a rendu témoignage à la vérité, ainsi qu'il l'a dit à Pilate. Dominique, mon fils adoptif, a de même prêché publiquement aux hommes la vérité de mes paroles, tant aux hérétiques qu'aux catholiques, par les mêmes ou par d'autres, non seulement pendant sa vie, mais par ses successeurs, car par eux il prêche et prêchera encore. Mon fils par nature a envoyé ses disciples. Mon fils adoptif a envoyé ses frères. Mon fils par nature est mon Verbe. Mon fils adoptif est le héros, le porte-parole de mon Verbe. Voilà pourquoi, par une grâce toute spéciale, il lui a été donné, ainsi qu'à ses frères, de comprendre la vérité de mes paroles et de ne point s'en écarter. Mon fils, par nature, a consacré toute sa vie, toutes ses actions, ses enseignements comme ses exemples au salut des âmes. Dominique, mon fils adoptif, a mis toute sa passion, tous ses efforts à délivrer les âmes des lacets de l'erreur et du vice. Sauver les âmes, telle est la fin principale pour laquelle il a planté et arrosé son or. Ainsi, Saint Dominique est pour nous un modèle dans la prédication de la vérité. Il est comme l'archétype, comme le résumé de cette prédication ardente. En fait, il rassemble en lui, d'une certaine manière, tous les traits qui ensuite seront comme explicités par chacun des saints dominicains. Saint Dominique fut un grand universitaire. Il a enseigné dans l'université de Palencia, donc l'une des plus grandes universités de l'Espagne, la Sainte Écriture. Saint Dominique s'est montré comme un missionnaire également pour répandre la vérité, la répandre dans les terres hérétiques, donc le sud de la France, la Lombardie, qui était prise par l'hérésie albigeoise. Et Saint Dominique a désiré de tout son cœur, mais il n'a pas pu le faire, a désiré de tout son cœur verser son sang en allant évangéliser les nations païennes. Saint Dominique a prêché au simple peuple, à Rome par exemple. Il a prêché également jusqu'à la curie romaine. Et enfin, il a reçu le Saint-Rosaire, et comme une prédication méditée. Ainsi, il est le Père. Il a fondé un ordre pour maintenir cette flamme. En saint Thomas d'Aquin, par exemple, nous montre la raison la plus pénétrante au service de la foi. Pourquoi est-ce qu'il a mis tant d'efforts? Pourquoi est-ce qu'il a passé tant d'heures de labeur? Pourquoi est-ce qu'il a sacrifié ses nuits pour approfondir cette théologie? C'est pour, d'abord, pour les grandes exigences intellectuelles de la chrétienté. Il fallait que la foi montre, d'une certaine manière, toute sa fécondité pour la civilisation chrétienne. Saint Thomas d'Aquin a aussi réfuté et détruit toutes les erreurs, toutes les arguties des hérétiques et des païens, toutes leurs objections qu'ils lançaient contre la foi. Saint Thomas d'Aquin a aussi rassasié les esprits avides de vérités plus profondes, d'approfondir les grandes vérités de notre foi. Et c'est pourquoi Léon XIII, dans son encyclique Eterni Patris, sa toute première encyclique de Léon XIII, dit en parlant de Saint Thomas d'Aquin, « La raison portée sur les ailes de Saint Thomas jusqu'au faîte de l'intelligence humaine ne peut guère monter plus haut. Et la foi peut à peine espérer de la raison des secours plus nombreux ou plus puissants que ceux que Saint Thomas lui a fournis. » Et Dieu lui-même dit à Sainte Catherine de Sienne dans ses dialogues, en parlant de Saint Thomas, « Il fut un flambeau très resplendissant qui répandit la lumière dans son ordre et dans tout le corps mystique de la Sainte Église en chassant les ténèbres de l'hérésie. » Donc, Saint Dominique nous montre le zèle de la prédication. Saint Thomas d'Aquin nous montre l'approfondissement de la foi, la raison, la théologie. Et Sainte Catherine de Sienne, elle nous montre l'amour irrésistible pour faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle aimait de tout son cœur. Parce que le feu, non seulement se répand par la prédication, parce que le feu non seulement éclaire, c'est Saint Thomas d'Aquin, mais le feu également réchauffe, le feu de la foi nous enflamme d'amour pour Dieu. On dit que Sainte Catherine de Sienne aimait tellement notre Seigneur Jésus-Christ qu'elle devenait intarissable quand il s'agissait de parler de lui. Dès que quelqu'un se trouvait en face d'elle, dès qu'une âme était là, elle désirait entendre parler de notre Seigneur, elle parlait sans cesse, elle pouvait parler pendant des heures. Un jour, c'était trois dominicains, si je me souviens bien, qui étaient très impressionnés en voyant comment cette femme, qui était en même temps une grande contemplative, pouvait parler si longtemps de notre Seigneur, ont décidé de se relier les uns les autres pour parler avec Sainte Catherine de Sienne, pour voir si au bout de quelques heures, elle finirait par se lasser et par arrêter de parler autre chose ou simplement manger. Et alors ils sont reliés pendant toute la journée, les uns les autres, parce que bon, ils n'allaient pas s'y prendre tout seuls, donc c'est des trois pour se relier les uns après les autres, auprès de Sainte-Catherine de Sienne. Et Sainte-Catherine de Sienne a parlé toute la journée de notre Seigneur Jésus-Christ, sans arrêt, sans manger, sans penser à rien d'autre qu'à parler de notre Seigneur. Parce qu'elle était tellement enflammée de l'amour de Dieu. Et c'était une chaleur, une charité qui lui donnait une grande joie, une grande bonté en même temps, qui réchauffait les cœurs, même les plus froids, même les plus durs, et convertissait les pécheurs les plus obstinés. Un jour, on raconte qu'un jeune homme, un siennois, c'était un noble, qui s'appelait Francesco, c'était un débauché. Il était vraiment rempli d'orgueil et il ne pensait absolument pas à la religion. Enfin, ça ne l'intéressait absolument pas. Toujours est-il que ce Francesco avait un ami, un poète en fait, et cet ami avait été converti par Sainte-Catherine de Sienne. Et donc cet ami est allé voir Francesco et a essayé de le convaincre, de le pousser à aller voir Sainte-Catherine de Sienne. Donc, ça, ce Francesco, qui s'intéressait absolument pas à Sainte-Catherine de Sienne et à tout ce qui touchait la religion, pendant longtemps on l'a repoussé, mais à la fin, bon, pour faire plaisir à son ami, il s'est dit « bon, je vais aller la voir après tout ». Et il est allé la voir en se promettant bien, en fait, de rabrouer Sainte-Catherine de Sienne dès qu'elle commencerait à lui parler de Dieu, de choses qui ne l'intéressaient pas. Donc il vient voir Sainte-Catherine avec les dispositions les plus mauvaises qu'on puisse avoir pour faire plaisir à son ami, en fait. Et pour que son ami arrête d'insister auprès de lui pour avoir la paix. Alors ce Francesco va voir Sainte-Catherine de Sienne et dès qu'il vient la voir, Sainte-Catherine de Sienne lui fait son plus beau sourire, en fait. Il l'accueille avec tellement d'amabilité que ce jeune Francesco est tout désarmé. Il n'ose plus porter aucune objection. Et au bout de sa petite conversation avec Sainte-Catherine de Sienne, tout repentant, il part pour se confesser. Et à partir de là, il mène une nouvelle vie. Il devient l'un des disciples les plus assidus de Sainte-Catherine de Sienne. Et il mène vraiment une vie édifiante, même s'il avait pris un certain temps pour se convertir tout à fait. Mais sous la direction de Sainte-Catherine de Sienne, il est devenu un chrétien très, très élevé, très, très fervent. Donc on voit cette bonté, cette charité qui se répand et cet amour de la doctrine pour en parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais alors les frères pêcheurs nous montrent aussi beaucoup d'autres exemples à travers les autres saints. C'est par exemple une Sainte-Catherine de Vichy, et toutes les sœurs dominicaines contemplatives, on a des contemplatives, des dominicaines contemplatives, pas loin d'ici, nous montrent l'exemple de la contemplation de la vérité. La vérité, c'est pas simplement, enfin, la foi, c'est pas simplement quelque chose de purement intellectuel pour des études très poussées. C'est avant tout l'amour de Dieu, ça doit avant tout nous enflammer d'amour de Dieu. C'est ce qui nous fait connaître le chemin du ciel. C'est l'exemple que nous montre bien ces sœurs dominicaines, notamment une Sainte-Catherine de Vichy. Saint-Dominique accordait tellement d'importance à ces moniales contemplatives, à leurs prières, qu'à vrai dire, Saint-Dominique, avant même de fonder l'ordre des frères prêcheurs, de fonder les frères, a commencé par fonder un couvent de dominicaines. Il y a beaucoup d'ordres comme ça, où l'on distingue le fondateur du premier ordre, l'ordre des frères, et le second ordre, ce qu'on appelle le second ordre, c'est-à-dire les contemplatifs. Par exemple, il y a un Saint Benoît qui a fondé les bénédictins, et Sainte Scholastique, la sœur de Saint Benoît, qui a fondé les bénédictines. Pour l'ordre des franciscains, il y a Saint François qui a fondé les frères, et Saint Clair qui a fondé les clarisses, donc la branche féminine des franciscains, et ainsi de suite pour beaucoup d'ordres. Mais pour l'ordre dominicain, c'est Saint-Dominique lui-même qui a voulu fonder ce couvent de contemplatifs, parce que c'est tellement important pour contempler la vérité, et en même temps pour obtenir par leurs prières les grâces nécessaires pour que les prédicateurs puissent répandre la foi. Et Saint-Dominique était vraiment plein de bonté, de prévenance pour ses sœurs, on dit que pour les sœurs de Prouille notamment, qui se trouvent dans le sud de la France. Un jour, il a apporté, en revenant d'un voyage d'Espagne, pour chacune des sœurs, il connaissait le nombre des sœurs déjà, et pour chacune des sœurs, il est allé prendre, en plus il marchait à pied, donc c'était pas facile, il a pris pour chacune d'entre elles une cuillère en bois d'Éden, c'est un beau bois, pour en donner à chacune des sœurs. On voit qu'il était vraiment une grande prévenance pour les dominicaines. Elle nous montre voilà, l'exemple de la contemplation de la vérité. Saint Vincent Ferrier, lui, il nous montre, il nous fait éclater la puissance de la parole de Dieu. Avec Saint Vincent Ferrier, c'est les temps apostoliques qui semblent se renouveler. Ses sermons retentissent à des distances extraordinaires. On dit que parfois, ces sermons étaient entendus sur plus d'un kilomètre, miraculeusement, bien sûr. sa parole est comprise dans toutes les langues. Quand il parle à des grandes foules, où il y a des personnes de langues différentes, de nationalités différentes, comme au jour de la Pentecôte, il y a chacun l'entend dans sa langue natale. La parole de Saint Vincent Ferrier guérit les malades. Elle a même plusieurs fois ressuscité les morts. Et par le don de prophétie, sa parole ouvre les voiles de l'avenir. Et surtout, sa prédication si ardente, si profonde, pénètre et bouleverse les âmes. Et parfois, elle a opéré des conversions par milliers. Comme le dit Saint Paul, la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Saint Pierre Martyr, lui, nous montre les droits souverains de la vérité face à l'erreur, car il était inquisiteur contre l'hérésie albigeoise. Il a défendu la foi jusqu'à verser son sang, puisqu'il est martyr. Et c'est de lui que Dieu le Père dit à Sainte Catherine de Sienne dans les dialogues, « Considère Pierre, vierge et martyr, qui par son sang jeta tant d'éclats qu'il éclaira les hérétiques eux-mêmes. » Effectivement, après son martyr, les hérétiques sont convertis par centaines. « Et qui eut pour l'erreur tant de haine qu'il résolut d'y sacrifier sa vie. Inaccessible à la crainte, il la confessa non seulement par sa vie, mais jusque dans la mort. Au moment d'expirer sous les coups de son assassin, la voix et l'encre lui manquant, il trempa le doigt dans son sang. Il s'incline pour écrire sur la terre sa profession de foi. « Je crois en Dieu. Credo in unum Deum. » Et puis on pourrait citer, et avançons plus vite, tous les saints missionnaires dominicains, un saint Hyacinthe qui a parcouru des milliers de kilomètres à pied pour aller sauver les âmes, pour sauver les âmes dans l'équivalent de l'Asie. Saint Louis Bertrand également, grand missionnaire qui a traversé l'océan pour évangéliser les Indiens. Et puis tous les saints évêques, tous les saints passeurs, un saint Antonin, par exemple, qui était évêque et qu'on appelait Antonin des conseils à cause de sa grande prudence pour guider les âmes vers le ciel, pour les prévenir des embûches, des pièges du démon. C'est un saint Pie V également, l'un des plus grands papes qui a défendu la vérité, qui a fait briller la vérité dans les mœurs en faisant appliquer les décrets du Concile de Trente. Et puis qui a également défendu la chrétienté, le lieu naturel de la foi, contre les protestants, contre l'islam. Vous connaissez bien sûr la grande victoire de Lépante. Et puis terminons enfin par le bienheureux Alain de la Roche, qui a restauré la dévotion au Saint-Rosaire, qui a rétabli la confrérie du Saint-Rosaire, pour répandre, maintenir partout cette si belle dévotion, qui est une prière, bien sûr, mais aussi qui est une méditation, qui nous fait approfondir notre foi, d'une manière vraiment merveilleuse. C'est Léon XIII qui dit, dans l'une de ses encycliques, « Le rosaire offre un moyen pratique facile d'inculquer et de faire pénétrer dans les esprits les dogmes principaux de la foi. » Un peu plus loin. « C'est pourquoi on peut affirmer sans exagération que chez les personnes, dans les familles et parmi les peuples, où la pratique du rosaire est restée en honneur, il n'y a pas à craindre que l'ignorance et les erreurs empoisonnées détruisent la foi. » Et pour terminer, chers frères, chers fidèles, prions, tous ces saints dominicains, prions Notre-Dame, mère des frères prêcheurs, pour qu'ils nous maintiennent dans la foi, surtout aujourd'hui où cela demande une grâce toute spéciale, où l'hérésie ou l'erreur est répandue partout, où les peuples ont apostasié de la foi. Bien, prions tous ces saints, prions Notre-Dame, pour qu'ils gardent notre foi intacte, et surtout pour que notre foi porte du fruit, que ce soit une foi, non pas une foi morte, mais une foi vivante, une foi vive, par la charité et qu'ainsi nous puissions les rejoindre, comme souvent Notre-Dame, un jour au ciel auprès de Dieu, auprès de notre Seigneur, le Verbe incarné, auprès du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.